France Culture. France Culture, Affaires étrangères, Christine Ockrent.
Bonjour à tous. La Pologne s'apprête à vivre demain l'élection la plus serrée de son histoire démocratique. Certes, il ne s'agit que de la présidentielle. Les législatives auront lieu en principe dans 2 ans et le chef de l'État polonais ne gouverne pas. Mais il dispose d'un pouvoir de nuisance, de blocage des lois et des nominations et la cohabitation entre le président conservateur sortant et le premier ministre libéral en exercice, Donald Tusk, a été pour le moins houleuse. Il y a 15 jours, le premier tour de la présidentielle se soldait, et c'était une surprise, par le très faible écart entre le candidat libéral, le maire de Varsovie, Rafał Trzaskowski, pourtant favori, et le candidat du PiS, le conservateur Nawrocki. Et c'est à la droite de ce dernier qu'on a vu surgir 2 mouvements extrêmes, totalisant plus de 20% des suffrages, surtout auprès des jeunes. Quelle est l'explication? Ces électeurs-là, demain, feront-ils la différence? Et pourquoi ce désaveu relatif vis-à-vis du gouvernement en place? L'histoire de la Pologne depuis 30 ans est celle d'un remarquable succès, depuis l'oppression et la misère de l'époque communiste jusqu'à l'épanouissement d'une société libre au niveau de vie en amélioration constante depuis l'entrée dans l'Union européenne en 2004 et une économie en plein essor. C'est aussi, avec la guerre en Ukraine, l'affirmation d'un nouveau rôle géopolitique, l'édification d'une puissance militaire en rempart contre une Russie dont la menace imprègne depuis toujours la mémoire collective. Au terme d'une campagne aux accents de plus en plus nationalistes, 2 Polognes vont donc s'affronter demain sous l'ombre portée du protecteur américain, incarné aujourd'hui par Donald Trump et ses prêcheurs MAGA. Quels sont les enjeux de ce scrutin présidentiel pour l'évolution politique et sociale du pays, mais aussi pour l'Ukraine voisine et pour l'Alliance Atlantique? Quel impact sur l'Union européenne, ses orientations, ses équilibres internes? Eh bien, c'est ce que nous allons comprendre ce matin grâce à vous, Pierre Buller. Vous êtes professeur à Sciences Po Paris, ancien ambassadeur de France à Varsovie et ancien président de l'Institut français. Jacques Rupnik, directeur de recherche émérite au Centre de recherche internationale de Sciences Po et ancien conseiller du président tchèque Václav Havel. Sandrine Levasseur, économiste à l'Observatoire français des conjonctures économiques et depuis Varsovie, Jarosław Kujic, rédacteur en chef de l'hebdomadaire sociopolitique Kultura Liberalna, associé aux études russes et est-européennes à l'université d'Oxford. Jarosław, on va vous rejoindre immédiatement à Varsovie, bien sûr. Quelle est l'ambiance ce matin, à la veille de ce scrutin?
Nous sommes après le premier tour de l'élection présidentielle. La campagne a été intense, honnêtement dire. La rhétorique brutale. Donc, nous sommes à la veille des élections. Et le résultat n'est pas certain, donc c'est un triomphe de la démocratie électorale.
Et les derniers sondages, qu'est-ce que ça donne?
Les derniers sondages, les 2 candidats bénéficient d'un soutien presque égal, donc c'est environ 47%. Le premier candidat est Rafał Trzaskowski. Je suppose que c'est un candidat dont le nom est le plus difficile à prononcer en France depuis le roi Stanisław Leszczyński au XVIIIe siècle. Mais c'est un candidat libéral, maire de Varsovie, héros enthousiaste. Mais malheureusement, sa campagne n'a pas été la meilleure campagne d'un candidat libéral, pour ainsi dire. Et puis, on a le 12e candidat, Karol Nawrocki, c'est un conservateur de type populiste, candidat de Jarosław Kaczyński, jusqu'à présent peu connu, un historien, directeur de l'Institut de la mémoire nationale. C'est une chose tout à fait inédite, mais au passé, il était lié au monde criminel. Donc, jusqu'au dernier jour de la campagne, nous avons appris les détails sombres de sa vie, mais ça n'a pas vraiment influencé le soutien. Lui.
Ce qui est frappant, Yaroslav, quand on regarde les résultats du premier tour, c'est que près de la moitié de l'électorat, je crois à peu près 40%, n'ont pas souhaité voter ni pour l'un ni pour l'autre. Et donc, on a vu les jeunes en particulier aller vers ce qu'il faut bien nommer deux candidats d'extrême droite.
Oui, et on peut même dire de la fatigue du ce qu'on appelle ici du duopole politique. Il faut la comprendre finalement cette fatigue. Depuis 20 ans, depuis 2005, les mêmes hommes politiques se succèdent au pouvoir. D'abord les règnes de Kaczynski, ensuite celui de Tusk, et c'est reparti. Bien entendu, il s'agit des politiciens qui sont tout à fait différents dans leur agenda politique, leur style, etc. N'empêche que pour les jeunes, surtout pour les jeunes, ce sont des dinosaures de la scène politique qui sont depuis toujours là. On a envie d'un changement.
Alors ce changement, Pierre Buhler, il faut comprendre par rapport à notre système politique à nous que la constitution polonaise n'accorde qu'un rôle limité au président. Pourquoi une telle intensité alors dans cette campagne ?
Oui, bonjour Christine. C'est un rôle certes limité. C'est pas le président ne peut pas être, ne gouverne pas, mais c'est un rôle bien plus que protocolaire. Et lorsqu'on n'est pas, comme ça risque d'être le cas si Nawrocki est élu du même bord, c'est ce que vous avez appelé ce pouvoir de nuisance. Pourquoi ? Parce que le président a une prérogative propre extrêmement importante, c'est qu'il promulgue les lois. Et la chambre basse, la Diète, ne peut passer outre à un éventuel veto, et donc il peut émettre un veto sur une loi, ne peut passer outre qu'à la majorité de 3/5 des députés. Ce dont la majorité actuelle ne dispose pas aujourd'hui. Il a également un droit de nomination de juges, nomination dans la haute fonction publique, notamment des ambassadeurs, mais bon, ça c'est une prérogative partagée, et de façon plus large, il a une prérogative partagée avec le gouvernement pour tout ce qui touche à la politique étrangère. Il représente également la Pologne à l'étranger. Par exemple, c'est le président qui participe, qui siège, qui représente la Pologne au sommet de l'OTAN, et il est chef des armées. Et donc, le résultat du scrutin de demain est véritablement un enjeu majeur pour la coalition actuelle, gouvernementale actuelle, parce que il se retrouverait donc avec le candidat du PiS, s'il était élu, dans une sorte de pugilat permanent, et peut-être beaucoup plus dur qu'avec l'actuel président Duda, et également sa volonté de revenir à l'état de droit sans enfreindre l'état de droit qui avait été mis à mal par les 8 années de gouvernement du PiS, eh bien ce projet sur lequel il s'est engagé vis-à-vis de l'Union européenne, vis-à-vis de la Commission, serait véritablement compromis. Donc l'enjeu est absolument majeur.
D'autant, Pierre, que la coalition, le gouvernement Tusk est déjà un gouvernement de coalition qui vit, et c'est le cas souvent dans les coalitions, pas mal de tiraillements. Donc la lassitude face à ce duopole dont parlait Jaroslav Kuitch, évidemment, elle imprègne aussi une certaine lassitude vis-à-vis du spectacle politique quotidien.
Oui, et notamment, comme le disait Yaroslav, comme vous le mentionniez également, vis-à-vis des jeunes qui arrivent à l'âge de la majorité, et on a constaté que leur suffrage se sont portés à 22-23% seulement sur se sont répartis entre les deux favoris à hauteur de 22-23%, alors que dans l'ensemble du pays, ces deux favoris favoris ont obtenu 60%, ce qui est le plus bas laitage pratiquement depuis dans la Pologne démocratique, ce qui manifeste une lassitude, une volonté de dégagisme, si on peut dire, en tout cas certainement la mouvance anti-système que l'on constate dans les deux extrêmes de l'échiquier politique, qu'il s'agisse de l'extrême droite ou de l'extrême gauche, les jeunes, donc ceux qui ont entre 18 et 29 ans, ont voté à hauteur de 60% pour ces formations d'extrême droite et d'extrême gauche. Même l'extrême gauche a reçu, alors que le candidat n'avait que 5%, des voix le 18 mai, 19 ou 20% des jeunes de cette tranche d'âge ont voté pour lui. Donc il y a véritablement une volonté d'alternance, même si elle est fragmentée. Voilà ce que je peux dire.
Ce qu'il faut peut-être préciser, Pierre Buhler, c'est que à l'extrême droite, les deux candidats réunis, qui sont, il faut le dire, assez haut en couleur, ont réuni pratiquement à eux deux 20%. Donc il y a ce milliardaire libertarien, son mouvement Confederatia, qui pourrait évidemment faire alliance avec le PIS à l'avenir, et puis un candidat royaliste antisémite, anti-Ukraine. Donc, sont quand même Brown. Des personnages qui surgissent dans un paysage parfaitement démocratique.
Oui, effectivement, et qui sont montés en puissance depuis une dizaine d'années, précisément dans cette mouvance anti-système. Donc, Menzen, qui est un jeune donc entrepreneur très dynamique, et qui s'est beaucoup appuyé sur les réseaux sociaux pour faire sa campagne. TikTok, c'est véritablement c'était son outil. Donc, il séduit beaucoup la jeunesse. L'autre, Grzegorz Braun, qui est un monarchiste d'extrême droite, antisémite avéré, enfin qui est constamment dans l'outrance, lui c'est un dissident précisément de Confederatia, de Confédération formation à laquelle il appartenait, mais il s'est distingué presque mondialement en éteignant avec un extincteur un chandelier à cette branche de Hanoukia en décembre dernier au sein de la chambre basse de la diète, et ce qui a véritablement fait scandale, il a été exclu du parti, donc de Confédération, et il s'est présenté lui-même, et le fait qu'il ait obtenu 6% des voix est véritablement préoccupant. Ça montre qu'il y a, 6%, à la limite, c'est peu, mais que un personnage aussi extravagant, avec une rhétorique antisémite, anti-ukrainienne, xénophobe, puisse tout de même recueillir 6% des voix, plus que les autres candidats, disons un peu marginaux, et révèle quelque chose également sur l'état d'esprit en Pologne.
Jacques Rupnik, mardi dernier, dans la petite ville, et là aussi c'est assez difficile à prononcer, donc pardon pour nos amis polonais qui francophones qui nous écoutent, donc la petite ville de Rzeszów, a eu lieu une conférence de la section polonaise du mouvement conservateur américain, la CPAC, et ils ont eu droit à une visite de Madame Christine Noem, qui est la secrétaire à la sécurité intérieure de l'administration Trump. Elle s'est en particulier distinguée ces derniers jours par ses attaques contre l'université Harvard. Comment est-ce que cette visite doit être interprétée, Jacques ?
Elle doit être d'abord interprétée comme un soutien ouvert, explicite de l'administration Trump, du président Trump, à M. Nawrocki, au candidat de la droite populiste en Pologne. Et c'est assez étrange de voir donc Madame Christine Noem qui est responsable de Homeland Security. En principe, c'est la sécurité intérieure, et donc qui n'a pas de qualification particulière pour s'exprimer sur des questions internationales, est venu en Pologne pour dire le message suivant. Vous devez élire un leader qui pourra travailler avec Donald Trump. Ça, elle l'a dit explicitement, c'est une citation, là, ce que je dis. Et donc, vous devez avoir un allié fiable. Pour avoir cet allié fiable, donc les États-Unis, vous devez voter pour Monsieur Navrotsky. Vous voulez avoir des frontières sûres? Votez Navrotsky. Vous voulez garder le lien privilégié de sécurité avec les États-Unis sur le plan militaire. Elle a même répété la phrase « Fought Trump », parce que quand le président Duda avait signé, lors de la première présidence de Donald Trump, avait signé dans le bureau ovale l'installation d'une base militaire américaine financée par la Pologne, en Pologne, Duda avait dit « Nous l'appellerons Fort Trump ». Eh bien, Madame Noem a immédiatement répété « Vous voulez garder Fort Trump ? Eh bien, il faut voter pour le candidat du PiS ». Donc, ce qui est intéressant là, c'est une... C'est pas seulement un intérêt, c'est quasiment une ingérence dans une campagne électorale en Pologne, le pays le plus important en Europe centrale. Mais c'est pas une exclusivité. On a vu du côté de l'administration Trump l'idée que on doit encourager les Trumpistes européens dans les élections diverses qui se présentent, afin essentiellement de diviser les Européens, c'est de ça qu'il s'agit, d'affaiblir l'Europe donc dans ses négociations, dans ses rapports avec les États-Unis. Et on a vu ça, ben on a vu ça en Roumanie. J.D. Vance qui a soutenu Calin Georgescu, le candidat malheureux. Mais le CIPAC, le même CIPAC qui a organisé cette réunion pour Madame Kristi Noem, a organisé à Washington une réunion pour Monsieur Simion, le candidat roumain de la droite nationaliste roumaine.
Ils ont été déçus s'agissant de la Roumanie.
Oui, ben ça marche pas forcément. Il suffit pas d'avoir l'imprimatur du CIPAC. Faut aussi que le candidat soit à la hauteur de cette investiture. Et ça n'a visiblement pas été le cas dans les élections roumaines. Mais c'est intéressant ce phénomène. Ils ont fait la même chose avec Fico, le Slovaque. Hein. Fico est allé le premier ministre slovaque. Il était à Moscou pour les cérémonies du 9 mai, mais la semaine d'avant, il était à Washington pour le CIPAC, chez les conservateurs américains. Donc il y a cette idée d'encourager les Trumpistes, les nationaux conservateurs eurosceptiques, au sein de l'Union européenne, essentiellement, je pense, pour l'affaiblir.
Sandrine Levasseur, l'Union européenne, la Pologne y est donc entrée en 2004, elle n'est toujours pas dans la zone euro, mais c'est néanmoins avec les pays baltes l'économie qui a le plus profité des fonds structurels européens, qui les a le mieux gérés. Et c'est une économie en pleine forme, avec, je crois, un taux de croissance aujourd'hui qui est aux alentours de 3,3%. Et j'ai lu quelque part que le PIB réel a plus que doublé en 20 ans. Donc, oui. Quelle est l'explication ?
Oui, alors c'est assez étonnant parce que tous les indicateurs économiques de la Pologne sont plutôt au vert, même très très au vert. C'est un pays qui a vraiment bien réussi son intégration dans l'espace européen, au travers des échanges commerciaux, au travers des IDE. Et pourtant, là, on sent qu'effectivement, il y a un sentiment anti-européen, pardon, qui se manifeste, qui est incompréhensible au regard des indicateurs économiques.
Effectivement, mais aucun candidat que je sache ne veut une sortie de l'Union.
Non,
à ce stade.
C'est clair, mais il y a manifestement un sentiment anti-européen chez ces candidats extrêmes qui se manifestent. Et lorsqu'il y a un appel en faveur donc de ces magas, donc de ces trumpistes, ça montre bien qu'il y a une volonté de déstabiliser ces pays en interne. Vous avez Monsieur Rupnik a parlé effectivement donc de la Roumanie, de la Slovaquie. Il y a une tentative de déstabilisation qui est totalement déconnectée par rapport aux fondamentaux économiques. Parce que, en fait, qui investit dans les pays de l'Est, ce sont bien essentiellement les pays d'Europe de l'Ouest. Ce n'est pas les États-Unis. Effectivement, il y a quelques multinationales que l'on va trouver dans les pays d'Europe centrale et en premier lieu en Pologne. Mais c'est surtout des multinationales d'Europe de l'Ouest. De la même façon que les fonds communautaires qui sont versés dans les pays d'Europe de l'Est, ce sont bien les autres pays de l'Union européenne plus riches qui les versent et non les États-Unis. Donc, c'est ça qui est un petit peu étonnant et surprenant, qu'il n'y ait pas cette, je vais dire, reconnaissance en faveur de tout ce que l'Union européenne a pu apporter au niveau économique depuis 20 ans à ces pays qui sont entrés donc, dans l'Union européenne.
Et on a vu que Madame von der Leyen, alors il faut rappeler que Donald Tusk, donc le Premier ministre en exercice, qui ne risque pas de perdre son poste demain, quel que soit le, en tout cas pas à court terme, quel que soit le résultat de l'élection présidentielle, il a été, lui, le président du Conseil européen il y a quelques années. Et on a vu, Sandrine, Madame von der Leyen, qui s'est quand même, très discrètement, efforcée de lui faciliter la tâche en ce qui concerne le pacte vert ou les accords sur l'immigration auxquels la Pologne, pour le moment, ne s'est pas soumise.
Oui, tout à fait. Au niveau du pacte vert européen, il y avait un certain nombre d'avancées qui avaient été faites dans le domaine agricole. Notamment, on avançait petit à petit vers une réduction des pesticides, vers une réduction des fertilisants chimiques. Et effectivement, il y a de ça à peine 4 semaines, Madame von der Leyen a faciliter la tâche de M. Tusk en supprimant toutes les avancées qui avaient été réalisées dans le domaine agricole. Ça, c'est vrai qu'elle lui tend la main, elle essaie de l'aider parce que effectivement, c'est assez mal parti et il a besoin de ce type de soutien, je pense, effectivement, oui.
Et les raisons aussi pour cet essor économique, c'est l'existence d'une main-d'œuvre en Pologne, qui est à la fois qualifiée et peu coûteuse, en tout cas par rapport à nos salaires plus à l'Ouest.
Oui, tout à fait. Donc il y a eu effectivement des phénomènes migratoires non négligeables de la Pologne vers les pays de l'Ouest, ou vers l'Irlande, ou vers le Royaume-Uni lorsque le pays faisait encore partie de l'Union européenne. On estime, alors c'est assez compliqué au niveau des chiffres, mais on estime qu'environ 2 à 2,5 millions de Polonais ont migré dans les pays de l'Union européenne au cours des 20 dernières années. C'est non négligeable, c'est vrai. Alors c'est moins de main-d'œuvre qualifiée pour la Pologne. En même temps, il ne faut pas non plus oublier le fait que ces personnes ont pu percevoir des revenus qui ont été ensuite rapatriés vers la Pologne pour aider à faire fonctionner l'économie locale, pour nourrir les familles, etc. Et petit à petit, effectivement, une partie de ces Polonais est revenue en Pologne et a pu créer ses propres entreprises, etc. Donc il y a quand même un cercle vertueux qui s'est mis en place et ces flux migratoires de la Pologne vers l'Ouest ne sont pas tous négatifs. Et il y a, au fil du temps, un retour sur investissement, on peut dire.
Oui, et on se souvient du plombier polonais qui était une figure majeure au moment de la campagne Brexit au Royaume-Uni. Retournons à Varsovie, vous rejoindre Jarosław Kujsz. Comment s'explique ce désaveu relatif du gouvernement en exercice par rapport à des résultats économiques et quand même une sortie en moins de 2 ans d'un système qui était quand même pas très réglementaire, qu'avait mis en place Kaczynski, qui reste donc le patron du PiS, du Parti conservateur.
Oui, c'est une question très intéressante. Juste pour continuer cette victoire économique de la Pologne, il s'agit d'une victoire économique sans précédent dans l'histoire, en effet. Je suppose qu'on peut même dire que c'est le choc de la réussite. Donc, il est difficile parfois d'y faire face. Et donc, il convient de se demander peut-être ce qui mobilise les électeurs en Pologne. Et finalement, la politique est déterminée par la peur de perdre la souveraineté. C'est la peur d'être à nouveau rayé de la carte. Et ça pourrait être très intéressant. Soit par la Russie, ce qui paraît évident aujourd'hui, mais soit par l'Union européenne. Exactement ce qui mobilise la droite, et l'extrême droite en Pologne. C'est notre souveraineté post-traumatique, donc c'est une chose qui est très très liée à l'histoire, mais ça mobilise les électeurs, surtout à la droite. En ce qui concerne notre gouvernement de Tusk, nous venons de parler de la fatigue du duopole politique, mais on peut aussi parler de la petite fatigue, la fatigue du gouvernement de coalition. La coalition est composée des libéraux conservateurs de Donald Tusk, ensuite des libéraux conservateurs qui n'aiment pas Tusk, qui ont été organisés par Szymon Hołownia, et puis d'une partie de la gauche. Et chaque parti a présenté un candidat à l'élection présidentielle. Donc, avec une compétition qui est assez évidente, on a une situation dans la coalition qui est très, très tendue. Et puis, il s'agit d'une chose qu'il faut aussi peut-être souligner, qu'on sait très bien que Donald Tusk est très populaire à l'étranger. Mais je suppose que Monsieur Tusk, il est menacé par ce que j'appellerais la malédiction de Mikhail Gorbatchev. C'est un homme politique très populaire en Occident et de plus en plus impopulaire dans son propre pays. C'est un politicien qui a l'air d'être fatigué. Par exemple, il a donné une interview télévisée cette semaine et sa prestation a été étonnamment faible. Donc, c'est une partie du paysage. Mais peut-être plus important encore, après tout, Donald Tusk était censé d'apporter les changements politiques, après le populisme. Et au lieu de cela, nous voyons quelque chose de différent. Il y a une tentative de la restauration de l'ancien régime libéral d'avant 2015. Les postes les plus importants du gouvernement sont occupés par des personnes qui étaient déjà au pouvoir avant 2015. Et en même temps, pas uniquement le monde a changé, ce qui est évident, mais il y a une tentative populiste de copier l'agenda populiste dans le gouvernement Tusk, qui est assez intéressant, mais ça donne pas vraiment de force pour mener la politique qui a été promise à 2023.
Pierre Buller, vous venez de publier un très bon livre chez Taillandier qui s'intitule « Pologne, histoire d'une ambition ». Et cette ambition... Et le livre est d'autant plus intéressant que vous expliquez la longue histoire, largement méconnue, il faut bien reconnaître, par nous, la longue histoire de ce pays qui a à la fois disparu et ressuscité, et notamment de façon très spectaculaire ces derniers temps. N'y a-t-il pas une fierté polonaise à voir que Donald Tusk, au même titre que le président français, le premier ministre britannique, le chancelier allemand, était à Kiev il y a une quinzaine de jours pour signifier que ce quatuor européen soutient l'Ukraine.
Oui, alors je ne suis pas sûr. On est dans une campagne électorale extrêmement polarisée et du côté, enfin, de l'autre bord, notamment du côté du PIS, ils ne font aucun cadeau à Donald Tusk. Et personne ne reconnaît, enfin, en tout cas du côté du PIS, que la Pologne est parvenu au fond à se hisser dans une sorte, non pas de directoire, mais un groupe d'États qui compte. Et tout ce qui a vraiment joué un rôle important, notamment à l'automne dernier, pour mobiliser les dirigeants européens derrière l'Ukraine. Mais ça n'est nullement porté à son crédit par le PIS. Et bon, l'opinion publique, je ne suis pas non plus sûr. Donc on est chacun au fond veut s'attribuer les mérites de sa politique et je crois qu'il y a en tout cas pas de consensus bipartisan comme on dit aux États-Unis sur un certain nombre de grandes lignes y compris de politique étrangère. Ce sur quoi en revanche les deux grands partis sont d'accord, c'est sur l'effort d'armement suite à l'agression de l'Ukraine par la Russie. Ça a été engagé, amorcé par le PIS en 2022. En l'espace de deux années, la part des dépenses de défense dans le PIB a doublé, est passé de 2 à 4%. Et cette trajectoire a été poursuivie par le gouvernement de Tusk. Là, on est à 4,7% du PIB, et ça pourrait passer à 5% l'année prochaine. Pour le reste, les choix sont assez opposés. Du côté du PIS, ils ne jurent que par Donald Trump. En fait, ils sont presque dans une sorte de fascination béate pour les États-Unis. Du côté du camp gouvernemental, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier, donc Tusk et son gouvernement évidemment restent très engagés dans l'OTAN, mais aussi essaient de s'appuyer sur l'Union européenne et notamment sur les fonds éventuellement disponibles pour la défense, s'appuient également sur des relations bilatérales ou des relations dans des coalitions de volontaires, comme on dit maintenant, avec la France. Le traité de Nancy a été signé avec l'Allemagne de Friedrich Merz, avec le Royaume-Uni, avec les Nordiques et les Baltiques. Donc, au fond, tout est bon pour assurer la sécurité de la Pologne. Voilà ce que je pourrais dire à ce stade.
Et une question encore, Pierre, vis-à-vis de la Russie, est-ce que les deux camps principaux sont aussi anti-russes l'un que l'autre ou y a-t-il des nuances ?
Non, il n'y a pas de nuance. Je dirais que en Pologne est sans doute le pays qui a l'aversion la plus forte pour la Russie d'aujourd'hui, en tout cas, et pour Poutine, c'est ce que révèlent les sondages d'opinion. Hein. Ils sont à peu près à 98% à avoir une très mauvaise opinion de la Russie. Donc, qui par ailleurs intervient quotidiennement par sa désinformation dans le paysage, l'espace informationnel polonais. Donc la Russie est historiquement, Yaroslav a Kouïcha parlé de cette souveraineté post-traumatique, et bien le traumatisme, il est russe avant tout, il a été allemand également, ça a laissé une cicatrice extrêmement profonde dans la psyché collective, dans la conscience collective de la Pologne. On se méfie de la Russie, on ne fait aucune confiance à ce pays qui a quand même envahi la Pologne, enfin tenu la Pologne sous son joug pendant 170 ans sous différentes modalités. Et il n'y a pratiquement aucun soutien à une quelconque complaisance vis-à-vis de la Russie. Donc c'est vraiment le danger, la menace existentielle pour tous les Polonais.
Jacques Rupnik, on comprend évidemment, et c'est la loi de la géographie autant que la loi de l'histoire, que l'Ukraine est un enjeu central pour la Pologne, qui a d'ailleurs édifié ce qu'ils appellent le bouclier de l'Est pour se protéger au maximum et nous protéger nous aussi, il faut bien le dire. des ambitions territoriales que pourrait avoir encore le régime russe. Est-ce qu'il y a en Pologne un consensus sur le rôle de l'Ukraine vis-à-vis de la le rôle de la Pologne vis-à-vis de l'Ukraine?
Il y a un consensus sur la sécurité, sur la défense de l'Ukraine. Il faut apporter le soutien à l'Ukraine face à l'agression russe. Donc là-dessus, comme ça a été dit, il n'y a pas de différence entre les candidats. Par contre, il y a des différences, et même plus que des différences, sur la façon de soutenir l'Ukraine. Alors, un aspect, c'est l'aspect militaire. Bon, ça, c'est. Mais il y a aussi tout ce qui concerne la relation bilatérale, puis l'aspiration ukrainienne à rejoindre l'Union européenne. Et là, on voit des différences de tonalité du côté du PiS et du candidat Navrotsky. On dit si l'Ukraine veut rejoindre l'Union européenne ou si l'Ukraine veut se rapprocher, de l'Europe centrale, de la Pologne, il faut d'abord une contrition. Il faut d'abord qu'elle s'explique, enfin qu'elle fasse amende honorable sur le passé de la Deuxième Guerre mondiale, essentiellement sur le massacre de plus de 100 000 Polonais en Volhynie en 1943-44. Et donc, on utilise la politique mémorielle par rapport à l'Ukraine. Et c'est pas par hasard, puisque le candidat du PiS, Navrotsky, est lui-même... D'abord a été directeur du musée de Gdansk, le musée de la Deuxième Guerre mondiale, puis est devenu directeur du musée de la mémoire nationale. Donc évidemment, j'allais dire, entre guillemets, c'est son fonds de commerce, et c'est là-dessus qu'il a fait en quelque sorte ses classes politiques, et il utilise cette politique mémorielle à sa façon dans les campagnes. Alors ça, c'est par rapport à l'Ukraine sur la Deuxième Guerre mondiale. Il y a aussi l'aspect Ukraine et son aspiration à rejoindre l'Union européenne. Et là, on voit des différences de tonalité aussi. Le gouvernement Tusk s'est fait l'avocat de la Pologne, de l'Ukraine dans l'Union européenne, en faisant néanmoins des réserves sur l'accès des Ukrainiens au marché européen pour les produits agricoles ou pour différents domaines. Donc il y a un accès avec des réserves. Les réserves du côté du PiS sont bien plus importantes, et surtout elles concernent l'OTAN aussi. Donc là, il y a l'idée que l'Ukraine doit être défendue, mais que l'idée que l'Ukraine ne doit pas rejoindre l'OTAN maintenant, en tout cas, peut-être à très long terme. Là, oui, on voit des plus que des nuances entre les candidats. Cette politique mémorielle aussi, c'est intéressant à souligner, elle est utilisée pas seulement contre l'Ukraine, mais aussi dans la relation avec l'Allemagne, car ça a été dit, la Pologne revient au cœur de l'Europe, mais il y a différentes façons de se positionner au sein de l'Europe. Il y a celle que souhaite le gouvernement actuel, le gouvernement Tusk, qui est le candidat Tchaïkovski, qui est, on retourne au cœur de l'Europe, et par exemple, le triangle de Weimar, Pologne, Allemagne, France, peut en être l'expression ou l'ossature. Par contre, du côté du PiS, du candidat du PiS, c'est l'accent mis sur la Pologne, oui, retour au cœur de l'Europe, mais en affirmant sa souveraineté et un nationalisme ombrageux. Et l'Allemagne est la cible principale de cela. Et là aussi, on revient au passé de la Deuxième Guerre mondiale. Il faut payer les réparations de la Deuxième Guerre mondiale, des dégâts commis. Il faut les accusations qui sont portées contre Donald Tusk et son gouvernement, mais surtout contre lui personnellement, c'est d'être un candidat qui est beaucoup trop proche de l'Allemagne. Quand il a fait son discours d'investiture, Donald Tusk au Sejm, au Parlement polonais, Kaczynski s'est levé, c'était à la fin de 2023, en disant « vous êtes un agent allemand ». Voilà. Et donc, ça donne un peu la tonalité, la question ukrainienne. Il y a plus que des nuances entre eux. Et la question allemande aussi, elle divise. Donc, oui, il y a différentes façons de revenir en Europe, en quelque sorte, ou au cœur de l'Europe.
Sandrine Levasseur, il y a aussi, pour les Polonais, la question d'une présence tout à fait importante d'immigrés ukrainiens. Il y en avait déjà beaucoup avant l'invasion russe en Ukraine. Je crois qu'il y avait déjà à peu près 2 millions de travailleurs ukrainiens payés moins cher que les Polonais et qui faisaient tourner en particulier l'agriculture, mais aussi le charbon, qui reste une ressource importante. Aujourd'hui, évidemment, avec l'exode, il y a à peu près 3 millions d'immigrés, et cela pèse évidemment sur une population polonaise qui vieillit par ailleurs, ce qui induit des priorités sociales différentes.
Oui, donc la population polonaise, effectivement, comme vous venez de le dire, elle est vieillissante. Donc, il y a un besoin de main-d'œuvre. Et avec un taux de chômage qui ne dépasse pas les 5%, de toute façon, il faudra trouver une solution à ce besoin pour assurer le fonctionnement de l'économie dans le futur. Et de ce point de vue-là, l'immigration ukrainienne est bienvenue. Elle est d'autant bienvenue que la capacité des Ukrainiens et Ukrainiennes à s'intégrer dans le marché du travail polonais est assez élevée. En comparaison internationale, on peut dire que la Pologne réussit bien l'intégration donc des travailleurs ukrainiens. Donc c'est quelque chose qui, là encore, est positif pour l'économie polonaise. Mais ça c'est pas propre à la Pologne. Dès lors que l'on voit arriver des travailleurs d'une autre nationalité sur son propre bassin d'emploi, on a des craintes, on a peur de perdre son travail, on a peur d'avoir moins de droits sociaux, d'être en fait tiré par le bas. Et pour rebondir un petit peu sur cette question donc d'élargissement de l'Union européenne à l'Ukraine. Justement, je pense que intégrer l'Ukraine dans l'espace européen, dès lors que la guerre sera finie et que l'Ukraine aura retrouvé l'intégralité de son territoire, c'est bienvenu dans le sens où, justement, ça permet de remettre à niveau en termes de droits sociaux. Ça permettra aussi de mieux négocier la libre circulation des produits agricoles, qui effectivement est un problème dans le cadre d'une Union européenne élargie, parce que...
Et qui est un problème déjà, pardon, je vous interromps, parce qu'on a vu des barrages routiers polonais pour entraver l'arrivée en Pologne et donc sur le marché de l'Union européenne de produits agricoles ukrainiens.
Tout à fait. Mais ça, il faut replacer ça dans un certain contexte. C'est qu'on a permis l'entrée des produits ukrainiens sur nos territoires dans un contexte de crise. Donc ça n'a pas pu être négocié. Oui. On a fait ça en vue d'une solidarité vis-à-vis de l'agriculture ukrainienne et plus généralement d'autres pays du monde qui ont besoin de bénéficier du blé ukrainien. Voilà. Mais ça n'a pas été négocié parce qu'on était justement dans un moment de crise. Et justement, l'Union européenne a ce bénéfice, c'est que ça permet de mettre les choses à plat et d'essayer de trouver un espace qui est gagnant-gagnant pour toutes les parties. Et actuellement, effectivement, lorsque la Pologne reçoit plus d'un million d'Ukrainiens sur son territoire parce que le pays est en guerre, on voit bien que ce n'est pas négocié. Voilà.
Il y a une innovation intéressante dont on pourrait peut-être s'inspirer aussi chez nous, c'est que le gouvernement Tusk a demandé, je crois, à un milliardaire polonais manifestement moins fou qu'Elon Musk, de mettre au point un programme de simplification administrative et économique. Qu'est-ce que ça donne, cet effort-là de simplification, Sandrine ?
Alors, je ne suis pas une spécialiste du sujet, mais c'est vrai que lorsque l'on regarde un petit peu la réglementation au niveau de l'Union européenne, les multiples directives, même pour quelqu'un qui est spécialiste, c'est très, très difficile de comprendre comment fonctionne l'Union européenne. Et c'est justement, en fait, l'un de ses soucis, c'est qu'on en pâtit, parce que comme c'est très compliqué, c'est très complexe, il y a un manque de transparence et certaines personnes jouent de ce manque de transparence pour dire, ben vous voyez, ça c'est la faute de l'Europe, ça c'est mal négocié, on est perdant.
Bien alors sûr.
Voilà, il y a un problème de transparence. Et la simplification, je pense qu'elle serait assez bienvenue de ce point de vue, effectivement.
Jaroslav Kouich, cet effort de simplification administrative, économique, mené donc par ce milliardaire polonais, est-ce que ça a donné des résultats déjà?
Jaroslav? Pas tellement. Il s'agit de Rafał Brzoska, qui c'est un businessman qui est déjà actif aussi au niveau international, entre autres en Angleterre, et qui a été invité pour montrer les côtés économiquement libéral dans la campagne électorale. Et finalement, il s'agit de. On est sur le stade qui est très, très initial, mais c'était un signal pour montrer que le gouvernement Tusk n'est pas tellement le gouvernement de la politique sociale, de la continuation de la politique sociale de l'époque de Kaczynski au pouvoir. N'empêche que finalement il s'agissait de neutraliser Confederacja, le parti du libéralisme économique des années 80, en effet, et en même temps conservateur du point de vue de la vie de la société. Donc il s'agit d'une action qui était faite pour des raisons de la campagne électorale. Donc, on ne sait pas vraiment ce que ça pourrait donner pour la suite.
Et pour la suite, précisément, Jaroslav, en fonction des résultats de l'élection présidentielle demain, si le candidat libéral, qui est donc soutenu par le Premier ministre en exercice, n'est pas le vainqueur, est-ce qu'il y a un risque d'élection législative anticipée, donc avant 2027, et le risque aussi d'une désintégration de ce gouvernement de coalition?
Le risque, il est toujours présent parce que ça dépend comment les politiciens du gouvernement de coalition vont se comporter. Je pense que c'est un risque pourtant faible, mais il faut peut-être souligner que même aujourd'hui, il s'agit d'une élection assez particulière. J'ai entendu parfois dans le média français qu'il s'agit de comparaisons avec la Roumanie. En effet, la Pologne n'est pas la Roumanie dans le sens des pouvoirs constitutionnels du chef d'État. Ils sont différents, ils sont plus faibles. Donc, finalement, les deux candidats, et parfois ça c'était présent dans notre conversation, les deux candidats sont des candidats par procuration, en effet. Parce que le candidat libéral, Trzaskowski, est soutenu par Donald Tusk, et le candidat conservateur est soutenu par Jarosław Kaczynski. Pourquoi? Parce que les pouvoirs constitutionnels du chef d'État sont d'importance, mais sont pas d'importance extrême comme en France aujourd'hui. Donc finalement, il est mieux parfois pour les politiciens prédateurs comme Tusk et Kaczynski de rester un tout petit peu à l'écart et regarder la situation de loin pour s'attaquer aux endroits où il y a le pouvoir en vrai, notamment de devenir ou redevenir le Premier ministre.
Jacques Hupnik, pour l'Union européenne en tant que telle, on a beaucoup souligné ces derniers mois un glissement vers l'Est et vers la Pologne, en fait, du centre de gravité de l'Union européenne en termes de ce qu'il faut bien appeler des rapports de force à l'intérieur de l'espace européen. Est-ce que cette élection présidentielle, de ce point de vue, est d'importance ?
Oui, elle a son importance. Elle vient d'être relativisée sur le plan intérieur à cause des pouvoirs relativement limités du président. Mais quand même, c'est très important parce que, au moins sur la politique étrangère, le rôle de représentation, là, ça peut jouer. Nous avons eu, depuis le début de l'année, une présidence polonaise. Cette présidence menée par Donald Tusk, avec beaucoup d'énergie et de force, mettant l'accent justement sur les enjeux européens, les enjeux de sécurité d'abord, bien sûr, mais aussi les enjeux de la politique énergétique européenne, etc. Là, ce qui se dessinerait en cas de victoire du candidat du PiS, le candidat Nawrocki, c'est que cette élan européen, disons, cette constitution d'une coalition des volontaires, je l'ai mentionné, le triangle de Weimar, où quand même France, Allemagne, Pologne pourraient travailler ensemble comme, disons, le levier principal d'une politique européenne. Ça risque d'être affaibli, parce que si vous avez un candidat à la présidence qui est élu, en gros, pour aller vite sur une posture anti-allemande, et qui pense que ce qui compte d'abord, c'est la relation privilégiée avec les États-Unis, et ils misent tout là-dessus, bien entendu, cela risque de...
Pierre Muller, s'agissant de l'Alliance Atlantique, même question. Est-ce que les équilibres dans cette Alliance Atlantique, on verra ce qui se passe lors du prochain sommet fin juin, néanmoins, avec Donald Trump et Pete Hegseth, le ministre de la Défense, on voit bien, Pierre, à quel point l'Alliance elle-même est entrée dans une période de doute, sûrement, et aussi d'évolution.
Oui, alors, il y a effectivement un gradient d'incertitude qui est assez élevé, surtout quand on le compare aux convictions chevillées au corps pendant des décennies parmi la plupart des dirigeants européens, et notamment les Polonais, que l'assurance de sécurité de l'OTAN et des États-Unis serait là ad vitam aeternam. Ils ont été effectivement assez secoués par ce qui se passe et pendant la campagne et depuis la prise de fonction de Donald Trump. Ce qu'on voit, c'est précisément deux politiques, deux stratégies différentes. Celle de Tusk et de son gouvernement, qui est de faire de trouver des assurances de sécurité tous azimuts, avec en nouant des partenariats en Europe, sans évidemment envoyer des signaux négatifs à Washington. Et du côté du PiS, là on est sur une logique purement américaine, rien sur l'Europe. Avec cette volonté d'ailleurs manifestée d'avoir une relation bilatérale, une relation spéciale en quelque sorte avec Washington, que portait d'ailleurs Madame Kristi Noem, mais qui a du répondant à Varsovie. Nawrocki, le candidat du PiS, était allé se faire adouber, était allé rechercher l'onction de Trump à la mi-avril. Et clairement,
oui, mais je crois qu'il n'avait été reçu que pendant 20 minutes, donc ça avait été interprété quand même comme une sorte de camouflet, en tout cas de déception.
Ce qui compte, Christine, c'est la photo opportunity, comme on dit. Oui. c'est de paraître partout comme le partenaire, comme celui que Trump a adoubé, que ça dure 40 minutes ou 20 minutes, au fond. Même Duda, lui, avait été très reçu pendant quelques minutes à la fameuse conférence de CEPAC. Il continue de miser tout sur la relation spéciale avec les États-Unis, en prenant sans doute des risques, mais ils ne veulent rien faire qui puisse donner des arguments aux Américains pour se retirer d'Europe ou réduire leur présence, leur empreinte en Europe. Donc, j'ajoute qu'on est quand même dans une situation très très fluide, que les choses changent beaucoup et rapidement, et y compris en Europe, et que bon, difficile d'affirmer des choses avec certitude. Ça change d'une semaine à l'autre. Mais la stratégie du PIS et éventuellement de Navrotsky, s'il était élu président, serait de continuer cette relation. Enfin, de poursuivre et développer cette relation privilégiée avec les États-Unis, qui peuvent eux aussi être intéressés à bilatéraliser l'ensemble de leurs relations avec les Européens, notamment pour les diviser, comme ça a été dit un peu plus tôt.
Et donc, Pierre, en guise de conclusion très provisoire à cette conversation, et en attendant les résultats, probablement demain soir, de cette élection présidentielle en Pologne, est-ce que ce moment polonais que vous décrivez dans votre dernier livre, est-ce que vous le voyez continuer en termes de cette évolution qui est tout à fait passionnante pour nous autres Européens plus à l'Ouest, ou au contraire, est-ce qu'il risque de se figer ?
Alors, moment polonais, mais on peut aussi avoir un moment américain rappelant celui de l'épisode 2000 où pendant 4 semaines on ne savait pas qui serait le président entre Bush et Gore, parce que les résultats étaient tellement serrés, il n'est pas impossible que lundi matin on ne sache toujours pas, ou qu'il y ait des contestations. Ça a été d'ailleurs évoqué par le PIS qui invoquait des manipulations sans aucune preuve d'ailleurs du gouvernement pour l'emporter. Donc bon, s'il y a un vainqueur clair et net lundi matin ou dimanche soir, selon que c'est Tchaïkovski ou Navrotsky, je pense que la situation, et Jacques l'a souligné, la situation sera très différente. S'il y a une cohabitation très conflictuelle à la tête de l'État polonais, je ne pense pas que, enfin, je pense que ça minera, affaiblira ce moment polonais que j'ai essayé de décrire et de projeter aussi dans le futur. Alors, ce qui restera certainement, c'est ce rôle, surtout si l'Ukraine devait être défaite, enfin d'une manière ou d'une autre, ne pouvait sortir par le haut de la guerre dans laquelle que lui livre la Russie, la Pologne deviendra, quel que soit le président, la clé de voûte de la sécurité du continent européen. C'est ma conviction et c'est à quoi j'ai conclu dans mon ouvrage, dans mon essai.
Eh bien, merci. Merci à vous quatre pour cet éclairage polonais très, très complet. Donc, Pierre Buller, je recommande vivement ce livre, Pologne, histoire d'une ambition, donc, qui est paru chez Taillandier en février cette année. Il me semblait que c'était plus récent, mais non, février. Jacques Rupnik, on attend votre prochain livre, Jacques, mais vous avez publié L'onde de choc tchécoslovaque, un pays que vous connaissez admirablement. La République tchèque d'un côté, la Slovaquie de l'autre. Donc, L'onde de choc tchécoslovaque 1968, publié par l'Institut d'études slaves en 2020. Sandrine Levasseur, vous participez chaque année à la rédaction du livre L'économie européenne, qui est un ouvrage des éditions La Découverte, qui propose un bilan annuel de l'économie européenne, et c'est signé par l'OFCE. Et je n'oublie pas, bien sûr, notre ami Jaroslav Kouich. Vous avez, Jaroslav, publié un livre en anglais, The New Politics of Poland, publié par la presse universitaire de Manchester, qui a été désigné comme l'un des meilleurs livres de l'année dernière par le magazine américain Foreign Affairs. Bravo. Donc, à la réalisation ce matin, Luc-Jean Reynaud, Alex Dang était à la technique. Théa Corlaire et Laura Dutèche-Pérez m'ont aidé à préparer cette émission, ainsi que la documentation de Radio France. Et c'est maintenant le moment d'écouter Marina Carrère-Dancause et ses carnets de santé. Très bon week-end et à samedi prochain.